Nous sommes sur Aligre FM 93.1. Dans la vie est un roman et ce matin nous avons deux invités. Nous allons d'abord vous présenter notre première invitée, Marie-Danielle Koechlin ou Koechlin, qui a publié un roman Indocile et qui participe actuellement à une exposition qui a lieu à la rue des Beaux-Arts. Dans la galerie Arnaud Lefebvre, la rue des Beaux-Arts dans le 6e arrondissement, exposition qui a pour thème l'accouchement. Et c'est à cette occasion, comme le de MDK, Indocile parle d'un rapport mère-fille, on a profité pour l'inviter et qu'elle vienne nous présenter son livre. À vous, madame.
C'est un livre qui parle d'une époque d'il y a plus de 60 ans. Parce qu'alors, l'avortement était puni comme un crime. C'est aussi l'époque où le féminisme a ressurgi, où les jeunes voulaient vivre en communauté. J'avais proposé pour titre « Une mère récalcitrante » ou « La traversée d'une mère récalcitrante ». Et l'éditrice Maureen Demidoff a proposé « Mère indocile, indocile ». Ça m'a beaucoup plu. Il me semblait que c'était un bon titre qui reflétait bien le caractère de la narratrice. C'est un long monologue d'une mère, une femme plutôt mûre, qui s'adresse à sa fille, une jeune adulte. J'ai essayé de donner un ton de complicité. Ouais, en fait, de confiance entre une mère et sa fille. Parce que elle va lui faire une révélation. Elle va lui révéler combien il lui a été difficile d'accepter son statut de mère. Et même carrément qu'elle a voulu l'avorter, interrompre sa grossesse, parce que c'était une époque où le mariage était l'issue évidente des rapports sexuels, parce qu'il n'y avait pas de moyens contraceptifs, autre que ce qu'on appelait la retirette. Et à l'époque, on comptait par douzaines les bébés ogynaux, d'après la recette du calendrier du docteur Ogynaux. J'ai écrit ce livre en m'appuyant, bien évidemment, sur mes souvenirs et aussi sur des souvenirs collectifs, des récits qu'on se partageait. Parfois sous forme d'écrits. À l'époque, des lettres, parce qu'à l'époque, avec mes amis, on s'écrivait beaucoup. On s'envoyait des lettres. Et puis, nous participions régulièrement à des groupes de rencontres, des groupes de partage, ateliers de thérapie, bioénergie, co-conseil, etc. J'ai tenté, par la voix d'une seule narratrice, d'évoquer l'atmosphère de ces années-là. Après la guerre de 39-45, l'économie avait repris tout son essor. C'est ce qu'on a appelé les Trente Glorieuses. Et dans ces années 60-70, suite au confort matériel apporté par ces Trente Glorieuses, on a commencé à vouloir un confort psychologique, à rechercher un confort psychique pour la vie relationnelle, pour la vie amoureuse. Et on a réinventé toutes sortes de formes pour mieux vivre en société. Et puis des thérapies nouvelles, autres que la sacro-sainte psychanalyse. Mais ce n'est pas du tout un récit historique, théorique. C'est raconté à travers l'expérience de vie d'une seule personne, la narratrice, Gabrielle. Elle évoque pour sa fille toutes ses tribulations. Et elle lui révèle, avec beaucoup de précaution, et j'espère avec délicatesse, qu'il lui a été très difficile d'accepter sa maternité, qu'elle ne voulait pas de ce rôle de mère, et comment elle a fini par découvrir les racines de ce désamour. Comment elle a fini par comprendre que c'était lié à sa propre relation avec sa propre mère. Bien sûr, il y a des éléments personnels, mais j'ai tenté de personnaliser une époque. Et curieusement, ça parle aux jeunes mères actuelles. Bien que ces jeunes mères actuelles, il semble qu'elles aient plutôt des difficultés à devenir enceintes, si j'en crois ce que j'entends dire par les jeunes femmes de mon entourage. J'ai essayé de faire sentir que le fait de pouvoir se raconter comme ça à sa propre fille, en réalité, témoigne de l'amour profond qu'elle ressent pour son enfant. C'est un amour extrêmement vivace qu'elle développe tout au long de son récit. Et c'est aussi l'histoire de la trajectoire d'une femme à travers ses tribulations, à travers une enfance entre guillemets dorée et pourtant très solitaire. Suite à un mariage entre guillemets d'amour et pourtant voué à l'échec. C'est l'histoire de toutes ces quêtes et de ces expériences, plus ou moins communautaires. Voilà.
Écoutez, merci, c'est magnifique. Et donc, je recommande vivement votre livre de Marie-Danielle Koechlin, Indocile, chez Henri Douguier, éditeur. Merci à vous et à bientôt.
À bientôt.
Et donc maintenant, je vais parler à notre autre invité, Jean-Christophe Menu, l'inventeur de la bande dessinée.
Bonjour
à toi, à vous. L'inventeur de la bande dessinée moderne.
Qui a dit ça?
C'est en l'éditorial. C'était dans un commentaire que j'ai lu récemment, qui vient de paraître, mais c'est peut-être dans l'éditorial, effectivement, de Étienne Robial. Bon, la première chose qui frappe quand on voit l'ouvrage dont on va parler, qui s'appelle 30-40, c'est son format. Et ce format a une histoire, et cette histoire est le fait de sortir des standards de ce qu'on appelle la bande dessinée franco-belge. C'était de ne plus pouvoir être rangé dans les mêmes casiers que toutes ces choses très formatées, de toutes ces choses qui avaient énormément d'obligations, qui étaient censurées. L'histoire...
Là, ce serait à Étienne Robial de parler des raisons pour lesquelles il a créé la collection 30-40, mais je pense qu'il y avait plusieurs raisons, mais effectivement, se démarquer était une des raisons, sortir de ce qui ressemble à un produit pour enfants, surtout, c'est-à-dire le format 48 pages cartonné couleur, que j'ai pu appeler 48cc, qui était un standard. Et donc, et aussi, le fait de mettre l'auteur en avant, ça c'était un des principes de Roubial, c'est-à-dire, c'est pas un titre qu'on a en couverture, et encore moins les aventures de machin, un personnage, mais le nom de l'auteur. Donc les premiers 30-40, c'était Calvo, écrit en gros, Tardy, Gire, qui prenait Gire par exemple, les trois lettres sur format 30-40, ça fait des lettres énormes, mais dans une librairie on voit plus que ça, quoi. Donc il y avait un côté politique dans la collection.
Oui, on n'est pas encore au roman graphique.
Non.
Mais on est dans une tentative d'être plus personnel, enfin d'être, c'est un petit peu comme la Nouvelle Vague, comme c'est une bande dessinée d'auteur en fait.
Ah
c'est
oui,
ça.
On peut ça, dire
c'est
ça.
C'est bien, oui, comme comparaison, je pense. Que
oui,
ça fait
on peut
sens.
Dire ça. C'est le fait de mettre le nom de l'auteur en couverture, en gros, c'est tout à fait ça. C'est on n'est plus dans le domaine du personnage qui caractérisait quand même et caractérise toujours d'ailleurs la bande dessinée dans sa majorité. Mais bon, la collection 30-40, elle naît en 74. Donc au milieu des Astérix, Schtroumpf, Blueberry, et on n'a pas tellement changé. Il y a simplement beaucoup plus de tout, en fait, plus de standards et plus de différences aussi aujourd'hui. Mais à l'époque, le 30-40, c'était vraiment une façon de se distinguer énormément et de dire, attention, la bande dessinée, c'est quelque chose qui est fait par des auteurs et pas forcément des aventures d'un petit personnage qui va faire rigoler vos gamins, quoi.
Oui, donc moi je suis bruxellois et à l'âge de 16 ans, j'avais écrit, en ayant lu, je pense, dans Spirou, au club des amis de la bande dessinée, j'avais été invité au club et il y avait une réunion et il y avait Maurice, il y avait Goscinny, il y avait tout le monde qui était là. Franquin, à l'époque, était à l'hôpital psychiatrique alors que je l'adorais, donc je n'ai pas pu le voir. Maurice a été très sympa avec moi. Après, il m'a emmené à une conférence qu'il a fait à l'université. Mmh. Et l'impression que j'avais eue de cette séance, c'était d'être allé dans une organisation syndicale.
Ah oui.
Et toute la discussion portait sur le métier, sur des lettres qu'il fallait écrire à certains organes de presse qui avaient médit de la bande dessinée, des revendications salariales et des choses comme ça. Mmh. Mais ce n'était pas du tout des artistes, c'était des salariés dans une entreprise. C'était les employés de Dupuis, quoi. Mmh. Mais par contre, la conférence de Maurice à l'Université libre de Bruxelles, il y avait 500 personnes dans la salle. C'était extraordinaire. Il y a un grand mec qui s'est levé tout au fond et qui a dit « Pourquoi c'est Avrel qui est le plus con ?» Et toute la salle a applaudi. Donc c'était des êtres humains, mais c'était un petit peu comme des ouvriers, quoi. On n'était pas du tout dans un... Il se la racontait pas, quoi. Et Goscinny parlait beaucoup plus que les autres. Il a parlé pendant 85% du temps. Et
ouais, je pense qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup de revendications en tant que... professionnel, quoi. C'est-à-dire,
exactement.
Ce qu'on fait, c'est un métier, on veut être considéré, quoi.
Comme un journaliste. Mmh. Et là, dans l'éditorial toujours de Robial, il garde deux dessinateurs belges, et je partage son goût, c'est Machereau et Tillieu. Effectivement,
oui.
J'ai des souvenirs de très très vite, Tillieu qui fait découvrir les routes nationales de France et puis les relais routiers, c'était absolument merveilleux.
Ça fait partie de mes deux préférés, oui. De mes préférés aussi, ces deux-là, surtout parmi les... Bon, bien sûr, Franquin aussi, mais Franquin, c'est une évidence.
Oui,
Tilleux et Machereau, on les oublie un peu plus, mais il y a énormément de qualité là-dedans. Mais c'est vrai que c'est une génération qui ne se considérait pas vraiment comme des artistes et qui même... comprenaient pas bien les jeunes Français qui se prenaient, eux, pour des artistes, ceux qui venaient après, les Meubius, les Tardy, pour peut-être juger que c'était un peu des prétentieux, je sais pas. Ils sont maintenant respectés comme des auteurs, en tout cas. C'est difficile de faire avaler qu'un imitateur de Tilleux, c'est la même chose que Tilleux, c'est pas vrai.
C'est affreux, oui. Alors, bon. parlons de votre livre, oui. Et donc, votre livre est un bilan d'étape extrêmement dense, d'une densité totalement affolante. Là, je suis sur la première page et il y a une densité de texte absolument incroyable et un dessin extrêmement serré, très travaillé.
Oui.
Et il y a aussi une façon de ne pas montrer l'effort qui était donné, mais il y a eu un énorme travail. C'est vraiment un bilan d'étape.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Oui, alors, bon, il faut préciser donc que la collection 3040 de Futuropolis par Robial s'est arrêtée à la fin de la maison d'édition, à la fin des années 90. Et qu'elle était, elle n'existait plus. Et c'est en discutant avec Étienne Robial que je lui ai proposé de relancer la collection 3040 à l'Apocalypse. Mais ce que je n'avais pas prévu, c'est qu'il me désigne moi comme étant le premier auteur à essuyer les plâtres et à en faire un. Donc ça a été énormément de pression parce que j'ai eu le trac de me mettre soudain avec ces auteurs tellement idolâtrés par moi et cette collection que j'idolâtrais également. Donc ça m'a beaucoup impressionné. Il a fallu que je vainque mon trac et puis j'ai aussi voulu profiter de ce format pour avoir une approche un peu différente. Comme je dessine très petit, j'ai donc multiplié les cases sur chaque page. Donc les pages font à peu près 2 ou 3 pages de livre normal, quoi. Donc il n'y a que 30 pages dans ce livre, mais c'est l'expérience de lecture d'un livre de 90 pages finalement. Et effectivement, il y a un peu tous les aspects que j'ai pu aborder durant les dernières décennies dans ma carrière d'auteur, quoi.
Et donc, il y a la mort du père. Mmh. Et alors donc, vous racontez que votre père, avec qui vous aviez des rendez-vous, vous habitez en province, comme on disait avant. Et vous, quand vous veniez à Paris, vous alliez manger ensemble, tout se passait très bien. Et puis à un moment, le contact se défait et vous racontez comment cette chose va s'éparpiller, va devenir de plus en plus difficile jusqu'à son décès.
Bah, oui, ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles ce livre était difficile à accoucher. C'est que dans les 5 dernières années, j'ai perdu mes 2 parents, qui étaient séparés depuis longtemps, mais à 2 ans d'intervalle néanmoins. Et comme je travaille sur l'autobiographie, il m'a semblé impossible d'aborder quoi que ce soit d'autre que ces événements importants et difficiles. Pas souvent abordés, je pense, dans la bande dessinée. Donc j'ai effectivement fait 6 pages sur le décès de mon père et 6 sur celui de ma mère, en essayant d'avoir des narrations très différentes. Pour l'un comme pour l'autre, des narrations qui s'approchent un peu de leur personnalité, puisque c'était 2 personnes extrêmement différentes, qui d'ailleurs ne pouvaient pas se supporter quand j'étais enfant, ce qui m'a fait demander ce que je foutais sur cette planète, ce qui est toujours un bon début quand on veut faire artiste.
Oui, pardon, il faudrait peut-être dire pour les rares personnes qui ne vous connaissent pas, disons par rapport aux auditeurs d'Aligre FM, que vous êtes un des fondateurs de l'association, donc du récit autobiographique, de l'arrivée du roman graphique, comme on dit aujourd'hui.
Alors, ça, je ne dirais pas. Non. On n'a pas inventé l'autobiographie, disons que...
Dessiné.
On l'a un peu théorisé. Enfin,
c'est ce que Crumb faisait, par exemple.
Oui, bien sûr, Crumb, ouais. Justin Green en premier, ouais. Spiegelman avec Mouse, Will Eisner, beaucoup d'Américains avant nous, mais aussi pas mal d'incursions dans tous les pays, Jiménez en Espagne avec Paracuellos. Mais c'est vrai qu'on a focalisé sur l'autobiographie, sur le rêve aussi en bande dessinée, sur...
Le non-calibrage, le noir et blanc.
Oui, un aspect littéraire, essayer de récupérer les contraintes surréalistes et les appliquer à la bande dessinée. On a fondé Loubapo, qui était l'équivalent de Loulipo, contraintes mathématiques. La bande dessinée marche très très bien avec ça. Donc il y avait un peu l'idée d'inclure la bande dessinée comme langage, le confronter aux avant-gardes du XXe siècle en art plastique et en littérature. Donc l'association a beaucoup pratiqué ça au départ, oui.
Oui, ça reste très ludique, c'est justement le... Et vous gardez des rapports très ludiques entre vous, encore aujourd'hui, là, comme je peux constater ça sur les réseaux sociaux. Ça reste très... Il n'y a pas la pose du... C'est pas du Michel-Ange, je crois, c'est pas la pose de l'artiste. On reste très en face avec soi-même, mais aussi avec les autres. Et puis le mouvement et l'ensemble des gens et le... un type de récit, enfin tout ça se dynamise, tout ça se propulse les uns les autres. Mmh. Et donc le père, oui, est un mâle dominant, en fait, quasiment une caricature de macho.
Oui, oui, bah c'est un mec de l'ancien temps, quoi, qui dissimulait ses émotions, pour qui parler de ses émotions, c'était un truc... efféminé, quoi. Ça se faisait pas, c'était pas un truc de mec, ce genre-là, quoi. Et ça a très vite clashé avec ma mère, qui était quelqu'un d'indépendant, qui a voulu causer une carrière scientifique et non pas être une mère au foyer, donc ça a très vite coincé.
Il y a une case où la mère dit qu'il n'est qu'un zob.
Oui, c'est atroce.
Mais c'est... Non, mais comme moi, je suis entre lui et peut-être, enfin, que j'ai peut-être son âge, mais je ne sais pas, mais entre les deux, je vois bien de quoi il s'agit. On avait, les hommes à l'ancienne avaient...
Oui, c'est un strip où je me représente enfant et j'entends mes parents s'engueuler et ma mère hurler à mon père, tu as un zob à la place du cœur. Et sur cette phrase... théâtrale, elle claque la porte et elle s'en va à pleine nuit. Donc voilà l'ambiance, quoi, pour situer. Et moi, enfant unique, dans ma petite chambre, à me demander ce que je fous là, quoi.
Oui, c'est dur. Et donc, contrairement à votre père, votre mère vivait dans une maison à côté de la vôtre.
Oui, ça c'est un hasard. Elle a fini par s'installer dans la maison secondaire qu'elle avait achetée dans les années 70, dans un petit village d'Ardèche, qu'elle avait retapé, une maison qui avait une histoire, puisque c'était l'ancienne école catholique du village, mais construite sur les ruines du château. Donc il y a une chapelle romane dans la maison, ce qui est assez invraisemblable. Mais, et en fait... j'habitais la maison d'à côté et elle a fini par n'habiter que là. Et donc on s'est retrouvés voisins, ce qui n'était pas toujours évident. Mais du coup, j'étais beaucoup plus proche de ma mère que de mon père. Comment dire, ça a toujours été un petit peu comme ça. Les deux familles étaient très différentes aussi. Et en fait, mes grands-parents maternels ont un peu fait main basse sur ma... pauvre personne qui considérait comme une espèce de petit Jésus. Et il fallait surtout pas me laisser dans les pattes de la famille paternelle, des artisans, des athées, enfin des mécréants, quoi.
Et votre mère est égyptologue?
Oui, elle était égyptologue, mais spécialisée dans le droit de l'ancienne Égypte. Donc elle n'était pas vraiment archéologue, même si elle était parfois sur le terrain des fouilles, mais elle travaillait sur les textes et donc sur des textes juridiques. Et elle a fait, à la fin de sa vie, ça l'a d'ailleurs tué, puisqu'elle a voulu terminer son grand œuvre, qui était la synthèse de toute sa carrière, sur l'histoire juridique et économique de l'ancienne Égypte. Et donc le deuxième tome est sorti de façon posthume, c'est au CNRS.
Et donc on a d'un côté le père avec pas de livres et la mère avec une quantité de livres invraisemblable.
Oui, voilà, avec des livres, alors que mon père, c'était un matheux, il était ingénieur et il voulait que je fasse comme lui, quoi, des maths, mais sauf que ça passait pas avec moi les maths, donc ça a commencé là les problèmes.
Et donc ni l'un ni l'autre n'est dans l'image, c'est le...
À l'exception que l'Égypte ancienne, c'est beaucoup d'images. Hein. C'est déjà un langage qui mélange le texte et l'image. Et donc, parfois, on me demande, est-ce que ça t'a influencé, les bas-reliefs pharaoniques? Je ne saurais pas le dire, peut-être. Parce que, en tout cas, ça me fascinait vraiment que ma mère sache décrypter les hiéroglyphes et les écrire, quoi. Quand on est gamin et qu'on a une maman qui sait traduire un texte en hiéroglyphes, c'est pas mal, quand même. Et puis, bah, l'imaginaire des pyramides, de l'embaumement, des momies, le sphinx, tout ça, ça a beaucoup compté. Et puis, ça rejaillit fréquemment dans ce que je fais.
Et donc, oui, là aussi, le récit, vous l'a trouvé coincé dans un escalier. Enfin, c'est très difficile, quoi.
Oui. En fait, j'essaye de raconter les derniers moments avec l'un comme avec l'autre. Et avec ma mère, c'est assez dramatique, puisque le jour de son anniversaire, c'est pas normal qu'elle ne réponde pas au téléphone. Et je vais chez elle et la trouve prostrée dans un escalier, ouais, entre une porte et un escalier. Elle ne pouvait plus bouger. Donc j'appelle les pompiers qui lui trouvent une température de 34 degrés, donc c'est très grave, on l'emmène à l'hôpital. Puis elle va y passer 3 semaines avec un espoir au milieu de s'en sortir, parce que bah, elle reprend des forces, elle reprend des esprits, elle se met à sourire de nouveau. Mais ça dure pas, quoi, c'est juste un dernier souffle.
Elle avait 85 ans.
85, oui.
Ouais, c'est...
Et le père, 88.
C'est quand même raisonnable.
Bah.
On va faire une petite pause musicale. Salut.
Bonjour. As I imagined, and what she sees cannot be detected. There goes.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Et donc, nous parlons de 30-40 de Menu avec Jean-Christophe Menu. Et nous avons abordé les deux des temps forts de ce grand ouvrage, grand format. Et maintenant, nous allons parler peut-être du reste, de l'ensemble de la démarche, puisqu'on parlait d'une... Alors là, on vient d'entendre Père Ubu, par exemple. Oui. Il y a le côté intérêt pour le punk, pour le rock.
Ben, pour la musique un peu en général, mais oui, plus particulièrement pour le rock, que ce soit des années de 60, du psychédélisme jusqu'au punk, néo-punk, et puis les suites actuelles, oui. C'est vrai que je suis plutôt porté sur les groupes à instruments et à textes intéressants, anglo-saxons essentiellement. Donc Père Ubu, c'est... parmi ce que je préfère, parce que déjà c'est un groupe très ancien qui a traversé toutes les époques et qui est toujours existant, avec son leader David Thomas, qui est un personnage incroyable, chanteur incroyable, écrivain aussi, par ses textes incroyables. Et puis un genre difficile à définir, quoi. Parfois on appelle ça post-rock, néo-punk, j'en sais rien. C'est en tout cas plein d'énergie, mais pas bourrin, quoi. C'est plein de finesse. Et il faut le voir sur scène si on a l'occasion.
Toutes ces choses-là, oui, aussi, c'est anti-formatage primaire. C'est vraiment l'idée de départ.
C'est pas du énergie, c'est sûr.
Parce qu'on souffre quand même beaucoup. Par exemple, les musiques relaxantes, c'est des instruments de torture quand même, qui sont bien pensés. Enfin, ça fait longtemps qu'il y avait cette musique dans les grandes surfaces.
Ah, le genre Muzak, musique d'ascenseur, musique d'aéroport, ouais, c'est affreux. Ouais.
En même temps, Brian Eno, c'est très brillant. Et donc, oui, on peut aborder les autres aspects. Par exemple, le secret du docteur Colostrum, alors, doit raconter toute une autre histoire, la mise en fiction des personnages, une autre approche.
En fait, j'ai plein d'axes différents qui ont fait l'objet de livres par le passé, mais je fais rarement plus d'un livre ou deux avec la même approche, parce que je m'ennuie très, très vite, donc j'aurais pas été capable d'être un auteur à succès avec un personnage et en être au 45e volume à l'heure actuelle. Ça marche. Pourtant, c'était mon idéal quand j'étais gamin, mais ça n'a pas fait, parce que je m'ennuie trop vite à faire toujours la même chose. Et donc le 30-40, un peu comme un autre livre que j'avais fait il y a une dizaine d'années qui s'appelait Métamune, c'est des endroits où je mélange un peu toutes les casquettes, toutes les tendances, tous les axes. Donc il y a de l'autobiographie, mais qui se mélange avec des univers de fiction successifs, en fait. C'est-à-dire, là, on retrouve la peau qui est justement... typiquement dans cette veine franco-belge, Machereau, Tilleu, personnage... de flic, mais animalier, donc un lapin, entouré d'un ours et d'un chien. Enfin, et c'est des personnages que j'ai créés quand j'étais enfant. Et c'est que j'ai réutilisé pour mon premier livre chez Futuropolis, en 87, donc quand j'étais très jeune. Et la fiction d'après, c'est Le Mont Vérité. Donc ça, c'est un univers créé... un peu dans la lignée de ce qu'ont pu faire Mandrika avec le concombre masqué, ou Fmur avec le génie des alpages, ou encore Fred, ou bien Moebius quand il fait le Major Fatal, des univers très personnels, très clos, qui sont un peu intérieurs, quoi, des univers qui fonctionnent un peu avec une logique de rêve. Et qui peuvent pas vraiment être régis par des règles de genre. C'est-à-dire, ce qui m'intéressait, c'est d'échapper au genre sacro-saint, c'est-à-dire western, heroic fantasy, science-fiction, polar, et d'essayer de faire une fiction qui se passe dans un lieu complètement déraciné, où il y a très peu de références avec le monde dans lequel on vit, en fait, pour ne garder que les rapports entre personnages au niveau psychologie et besoins primaires, en fait. Donc c'est pour ça que dans Le Mont Vérité, on parle beaucoup de bouffe, Et c'est des rapports de comment dire, un peu de compétition entre les moines. Il n'y a que 7 moines, ils sont tous identiques, contrairement aux 7 nains, mais de la même façon que les Schtroumpfs. sauf qu'il y en a moins, il n'y en a que 7. Et en fait, leur préoccupation, c'est essentiellement bouffer, se bourrer la gueule et s'occuper de la fin du monde, puisque l'eschatologie est leur mission, c'est-à-dire prédire la fin du monde, accomplir des prophéties, voir si ça se réalise ou pas, écrire dans des grands livres, voir faire des études comparées sur les catastrophes, l'apparition d'un nouveau légume, ce genre de choses. Et donc cet univers-là s'appelle le Mont Vérité. Et il y a aussi une sphinge, donc la femelle du sphinx, donc ça vient directement de l'égyptologie en effet, qui sait tout, elle est divinatoire et omnisciente, donc elle sait exactement ce que les frères, les 7 moines font en secret par exemple. Donc elle utilise ça comme moyen de chantage pour avoir également à bouffer, puisque c'est un félin et les félins sont très intéressés par la nourriture aussi. Et puis, il y a des personnages secondaires qui passent. Il y a un accoucheur, par exemple, qui, lui, a des traits humains, par contre, qui accouche régulièrement des femmes, parce qu'il est réputé. Donc, on vient d'autres contrées pour se faire accoucher chez lui. Mais il utilise souvent la table de la cave du monastère, qui sert d'ordinaire à boire du vin. Mais, bon, parfois, on accouche des femmes, là.
Et donc, ça a donné la publication d'un album chez Dargaud.
Alors, il y en a d'abord eu un à l'association avec un ensemble d'histoires courtes qui ont été faites sur pas mal d'années. La toute première date de 93, était dans un collectif de Autrement, en fait. Et c'est d'ailleurs le thème du collectif qui a un peu défini l'univers, puisque le thème c'était le retour de Dieu. Donc, comment est-ce qu'on peut traiter un peu le retour du sacré dans les années 90, qui sont déjà loin derrière nous, quoi. Et ça, c'est comme ça qu'est né ce monastère. Et par la suite, j'ai continué à faire des histoires. Et effectivement, ça a été jusqu'à un album classique, cartonné couleur de 64 pages, chez Dargaud. Donc, une espèce de blague, quoi, parce que c'est un univers vraiment pas commercial. Mais bon, après tout, Dargaud a bien publié Le Génie des Alpages, de Fmur, Philémon, de Fred, Druyer, Mandrika. Donc j'étais quand même content de m'inscrire dans cette continuité-là. Je suis très obsédé par l'histoire de la bande dessinée, et si je peux m'incruster dans quelque chose qui a compté pour moi quand j'étais plus jeune, ça me fait bien plaisir. Donc bien sûr, le 30-40 là, dont on parle, c'est exactement ça aussi. C'était une sorte de jouissance quand j'ai pu ranger ce livre à côté des autres, quoi, à côté de ceux que Robial avait fait à Futuropolis.
Vous avez fait une thèse de doctorat sur la bande dessinée.
Également, oui.
Et donc ça, c'est quand même...
On n'est pas très nombreux à être auteur et à l'avoir fait, quoique ces derniers temps, ces deux dernières années, il y en a deux de nouveau. Il y a Luc Morvandio, qui est dessinateur de presse et auteur de bande dessinée, à l'association également, et Johanna Schipper, qui a travaillé sur les rêves en bande dessinée, qui ont chacun fait une thèse de doctorat récemment. J'étais dans le jury de celle de Morvandio, et donc moi, c'est il y a une quinzaine d'années, oui, que j'ai fait à un âge assez avancé déjà.
Vous êtes vraiment le moine des moines sur la question. Je pense avec émotion vos trois premiers numéros de l'Écho des Savanes, je me rappelle où j'habitais quand ils sont sortis,
ah oui.
Des réactions que j'ai eues. Et donc, à l'intérieur de ce 30-40, il y a aussi, donc il est en noir et blanc, et il y a des transgressions à l'intérieur, par exemple, il y a l'arrivée de la couleur à un moment donné avec un personnage vert,
ah oui.
Avec un code couleur, 3 couleurs.
Alors, c'est vert et
4.
C'est vert et pas mûr qui lui aussi. J'ai pas beaucoup de lecteurs, mais ils sont assez.
Fans absolus.
Oui, assez obsessionnels parce que. Par exemple, Vert et pas mûr, c'est un petit mini-récit qui est jeté comme ça en supplément dans Labo, un collectif à Futuropolis en 90. Et c'est un petit mini-récit. Ce mini-récit, il est redessiné pour un canard d'informatique qui s'appelle SVM Mac, donc une dizaine d'années après. Et puis, Verte et pas mûre, renaît dans une des formules de Lapin, la revue de l'association. Mais il n'y a jamais eu de livre qui s'appelle Verte et pas mûre, exactement. Donc le fait qu'ils soient là, qu'ils reviennent, c'est encore aussi une sorte de clin d'œil à mes fidèles lecteurs. Mais j'espère toujours que les choses sont lisibles sans qu'on connaisse tout le passif, quoi. Et d'ordinaire, on me dit qu'à peu près oui, quoi. Et donc l'idée de mettre Verte et pas mûre, évidemment, c'est d'utiliser la quadrichromie avec un pied de nez par rapport à ce qu'on attend de la quadrichromie, puisque là, les couleurs primaires, le cyan, le jaune, sont utilisés qu'en aplat 100%, avec le cyan et le jaune qui donnent du vert en superposition. Et le comble, c'est que le magenta n'apparaît qu'à la toute fin, sous la forme d'un petit poisson qui doit faire même pas un centimètre carré dans ce grand format, quoi. Donc c'est la seule présence du magenta dans tout le livre. C'est de l'humour un peu de fabricant de livres, de chef de fab, de graphiste. Voilà.
Ça ressemble aussi à une problématique de musique, de fans, pour moi, enfin, de fans de musique punk, etc. Enfin, il y a aussi un côté collectionneur fou, il y a un côté club, oui.
Oui, là, c'est vrai que j'ai conçu le livre un peu comme un disque, c'est-à-dire...
ça marche bien, oui.
Et comme un vinyle, parce que les deux pages centrales, c'est un peu le moment où on tourne le disque. Et on recommence avec un premier morceau de la face A, donc le deuxième morceau de la face B était important, la grande plage qui ouvre, etc. Enfin, c'est quelque chose qu'on a perdu, avec, non seulement avec le téléchargement, mais déjà avec le CD. Pour moi, on avait déjà beaucoup perdu des contraintes qui fabriquent la musique, le morceau, les morceaux de fin de phase, des débuts de phase, c'est hyper important. Et on a perdu tout ça maintenant, on ne sait plus du tout, enfin c'est... Je ne vais pas jouer au vieux schnock, mais il y a quelque chose de perdu.
Et les approches graphiques, en tout cas à moi qui suis lecteur, m'apparaissent très différentes selon les problématiques. C'est conscient,
oui.
Assez conscient. C'est maîtrisé.
Oui, oui. C'est, comment dire, par exemple, le fait d'avoir des narrations très différentes pour... les histoires sur mon père et sur ma mère, ça c'est ce que j'ai voulu. Donc pour mon père, c'est une narration assez linéaire de bande dessinée un peu classique, avec un texte off en cartouche, des feedbacks, mais alors que les planches sur ma mère sont beaucoup plus complexes au niveau mise en page, c'est-à-dire il y a des très grandes images d'objets, de décors. J'ai voulu m'immerger en fait dans sa maison, donc il y a des très grandes cases de sa table de travail, de sa bibliothèque, de sa chambre, de sa maison. Ça m'a permis de faire un peu mon deuil de faire ça, c'est-à-dire de passer de longues heures chez elle à dessiner le lieu. Et puis, il y a une deuxième narration qui est en fait une petite bande dessinée carrée que j'avais fait de façon très spontanée dans un carnet pour le poster sur les réseaux, notamment Instagram, c'est pour ça que c'est carré. En live, en fait, quand ma mère était malade à l'hôpital et puis après son décès. Donc ça s'est fait en trois étapes et c'est quelque chose que j'ai eu cœur à poster, partager pour expliquer à mes amis ce qui m'arrivait, quoi. Ça, c'était pas possible de le redessiner de manière plus poussée. Il fallait que je mette ces pages de carnet telles qu'elles étaient sorties, quoi. C'est-à-dire sans aucun crayonné, totalement spontané et sous le coup de l'émotion aussi. Et donc ça vient en contraste avec l'arrière-plan qui lui est extrêmement fouillé, dessin à la plume avec énormément de détails.
Nous sommes sur Allegre FM 93.1, dans La vie est un roman, et je parle avec Jean-Christophe Menu de son 30-40 qui vient de paraître. Et donc, oui, est-ce que... On a même l'impression que les outils sont différents, mais si j'ai bien compris, vous dessinez toujours avec la même plume.
Oui, mais en général, à part
par exemple,
justement...
Mais pour faire des grosses cases noires comme ça, c'est fait à la plume.
Ah oui.
Donc ça, c'est vraiment beaucoup, à l'encre de Chine, à la plume.
C'est très très simple pour moi.
C'est tracé plumes, avec une règle, oui.
C'est les mots, non, pas de règle.
Pas de règle.
Non, c'est plume atome pour enfants et encre de Chine. Alors là, japonaise, parce que la Pélican de ma jeunesse est devenue de trop mauvaise qualité, donc... je commande de l'encre un peu plus chère au Japon et les plumes atomes sont devenues aussi de très mauvaise qualité. Donc parfois j'en trouve des vintage qui me durent 10 fois plus longtemps.
non mais c'est important, c'est parce qu'il y a... Non c'est absolument mais fondamental. Sinon c'est
toujours le même outil, à part donc les cases.
Oui, là c'était un autre outil. Oui.
Qui était du stylo plume de bureau, quoi.
Ouais.
Ce qu'on appelle fountain pen, pen en anglais.
Et donc une grande fidélité aux outils, pas de nouveautés, pas de consommation.
Alors il y a quand même certains endroits où il y a des traits de pinceau un peu. Là par exemple, dans la première page
de
Mont Vérité, on a un premier plan avec un gros trait de pinceau bien épais, oui, c'est vrai.
Oui, donc vous êtes
quand même.
Extrêmement... Ça fait très longtemps que vous pratiquez, donc vous pouvez obtenir à peu près tout ce que vous demandez. Et là, effectivement, j'imagine que...
C'est aussi ce qu'on fabrique qui impose...
Un style.
Qui impose, oui, non seulement le style, mais aussi le contenu. C'est la bande dessinée, c'est quelque chose d'assez bizarre mentalement, parce que on sait pas trop ce qui impose et ce qui coule de source, quoi. C'est sûr que j'ai pas eu envie de faire du blueberry à un moment donné, d'apprendre à faire un cheval correctement anatomiquement. J'aurais probablement pu y arriver en creusant, mais ça m'a jamais intéressé, quoi.
Et vous n'avez jamais eu de donneur d'ordre, enfin vous en avez sûrement eu parfois, mais c'est pas là-dedans par exemple, on voit pas du tout ce genre de choses.
Non, bah là je travaille avec.
Vous n'avez pas été corrigé par quelqu'un qui a dit je veux pas que ça soit comme ça, il faut refaire le scénario.
C'est vrai que malheureusement je me suis auto-publié beaucoup et là je pourrais plus tellement supporter qu'on vienne m'embêter derrière mon épaule, quoi. Bon là par contre j'étais content de pas être tout seul puisque j'ai fait le livre avec Étienne Robial qui était quand même mon éditeur. Enfin je le vivais comme ça en tout cas, même si à la fin c'est l'apocalypse, c'est la maison que la structure que je gère moi. Mais
ah oui, on n'a pas dit vous étiez éditeur, on peut parler un peu de l'apocalypse si vous
voulez. Oui.
Vous avez fait combien de livres à l'apocalypse?
Pour en finir avec ça, j'ai fait très peu de livres hors des structures que je me suis moi-même créées, mais bon, j'en ai quand même fait deux chez Flux Glacial, un chez Dargo, et bon, mais là je dois bien avouer qu'on m'a toujours fichu une paix royale.
Le Dargo, c'est vraiment très drôle, qu'on n'a pas du tout l'impression que c'est une commande, on a l'impression... Enfin, on comprend très bien le concept, c'est formidable.
Je ne l'ai pas vécu comme une commande, et en plus je me suis amusé. Bon, j'avais un directeur de collection, Thomas Ragon, avec qui m'a laissé faire tout ce que je voulais. Mais par exemple, je me suis amusé à donner une allure du puits à un livre d'Argo. Bon, ça c'est des petits clins d'œil de connaisseurs, mais ça m'a beaucoup amusé.
C'est amusant. Et alors l'Apocalypse, vous voulez en parler?
Oui.
Combien de volumes parus?
L'Apocalypse, c'est la maison d'édition que j'ai créée quand je suis parti de l'association, que j'ai menée pendant une vingtaine d'années. Et j'en suis parti pour des raisons de mésentente avec mes cofondateurs. C'est trop long à expliquer, mais j'étais content d'en partir. Mais j'avais quand même toujours envie de faire des livres, et donc j'ai tout de suite rebondi sur une autre structure qui aurait été plus large d'esprit, avec des textes, des livres de dessin, pas que de la bande dessinée, quoi. Et aller plus visiter ce qui se passe aux marges de la bande dessinée, toujours aussi avec l'esprit un peu patrimonial qui animait l'association, c'est-à-dire rééditer, par exemple, une œuvre méconnue de Willem. Donc j'ai édité pour la première fois en français Billy the Kid, qui n'était paru que aux Pays-Bas. Un livre qu'il a fait en 68 au moment du Vietnam, où il charge l'armée américaine avec une parabole transparente sur le Vietnam. Donc déjà un livre extrêmement cruel, extrêmement lucide, qu'on peut toujours lire d'actualité aujourd'hui, et Willem est toujours aussi génial aujourd'hui. Donc. Et puis j'ai commencé à éditer les lundis de Delfeuil de Ton. Donc là, on s'éloigne un peu de la bande dessinée, mais pas tant que ça, puisque Delfeuil était à Harakiri, dans la première mouture de Charlie Hebdo, avec Kavanagh, Reiser, GB, les autres. Et moi, j'avais été très marqué par les chroniques de Delfeuil dans le Nouvel Obs de mes parents. Une page qui faisait face aux frustrés de Claire Boitrichu. Donc la double page, un peu alternative du Nouvel Obs, en fait.
Avec une liberté totale, magnifique.
Oui, oui. Delfeuil le dit, il n'a jamais eu un seul souci avec l'Obs de censure ou d'ennui. Et parfois, d'ailleurs, il n'y allait pas avec le dos de la cuillère, mais on a toujours passé ces petits excès, heureusement. Et c'est pour ça que c'est toujours intéressant aujourd'hui et que je le réédite. Donc il y a eu 3 volumes, donc 6 années. Et cette année devrait sortir le tome 4 de 82-83. Il devrait y avoir logiquement 30 volumes, mais bon, je ne sais pas si on va y arriver. Mais tant que la structure existe, je sortirai un volume par an ou tous les 2 ans. Et à chaque fois, il y a un auteur proche de Delfeuil qui fait la couverture. Donc la première fois, c'était le portrait officiel de Delfeuil à vélo par Reiser. Et Delfeuil a eu l'idée de le faire dessiner par d'autres. Donc le deuxième, c'était Ciné. Il l'a fait peu avant son décès. En troisième, on avait Willem de nouveau. Et pour le 4, on aura Vima.
Parfait.
Parfait. Voilà.
Et tout le monde est présent, oui.
Et donc, il y a une trentaine de titres qui vont du patrimoine, donc. Willem, Delfeuil. J'ai fait un livre de Topor aussi. Une réédition de Jean-Claude Forest, récemment, qui s'appelle Le Copyrite. C'était un personnage de Vaillant, l'ancêtre de Pif. Le Copyrite étant un animal un peu étrange qui a influencé Mandrake pour le concombre masqué. Donc, vous voyez, on retombe un peu toujours sur les mêmes, là. C'est une constellation assez cohérente. Quand je fais de la création ou de l'édition, c'est vraiment les mêmes obsessions qui reviennent.
Oui, mais c'est des personnages qui avaient qui ont pris leur risque. Enfin, c'est comme Topor, par exemple, pour une génération. Enfin, on a des gens comme ça qui sont sans faire exprès. Il y avait une exposition magnifique sur Topor à la Bibliothèque nationale.
Ah bah, Topor, c'est...
Et ça tenait très très bien le coup. Il y avait vraiment...
C'est
il
énorme.
Était à
ouais,
sa
oui,
place,
c'est...
il était à la Bibliothèque nationale, ah, tout à fait, et il était ouais. à sa place. Ouais. Et c'était énorme, il y avait énormément de choses.
Et Topor, il a la particularité d'être un touche-à-tout, c'est-à-dire il a tellement fait de choses différentes qu'on ne sait jamais où le ranger.
Oui, il fait un dessin animé pour la télévision.
Ouais, enfin,
je ne sais pas si c'est un dessin animé, mais...
Il a fait, oui, Téléchat, c'était des marionnettes,
extraordinaire.
Mais par contre, il y a un long métrage d'animation. Il fait de la gravure, il fait du théâtre, il fait du roman.
Les journaux dans lesquels il a participé, les revues, tout. Il en oublie tout ce qui touche.
Donc, ouais. C'est ça. Donc en fait, on ne peut pas dire que ce soit un dessinateur ni un écrivain. C'est tout à la fois. Donc c'est Topor, quoi. Et j'adore que quelqu'un comme ça se retrouve un peu partout et on ne puisse pas le ranger dans une case. Ça me plaît beaucoup. Il y en a d'autres, un peu. Benoît Jacques, par exemple, que j'adore, il est parfois catalogué comme auteur jeunesse, mais en fait, c'est plus un concepteur de livres, puisqu'il s'auto-édite lui aussi. Et il a une énorme attention sur l'objet, sur la fabrication, il suit tout, jusqu'à la diffusion. Et pareil, on ne sait pas où le ranger, quelqu'un comme ça. Ou Yoren Gerner, qui fait à la fois de la bande dessinée, mais du travail de galerie aussi, d'art un peu conceptuel. Et j'adore ces gens-là, ces touche-à-tout, qui échappent aux étiquettes, en fait. J'aimerais être comme ça aussi.
Oui.
J'y travaille.
C'est bien. Et est-ce qu'on peut dire que vous serez à Angoulême demain pour vendre le 30-40, enfin, je sais pas si...
Oui, tout à fait. Oui. C'est d'ailleurs, oui, demain j'y vais, oui.
Et donc, si quelqu'un veut acheter le 30-40 et qu'il est à Angoulême, ça ouvre, vous êtes là.
Oui, ça ouvre jeudi. Et alors, c'est particulier cette année, il y a pas mal de polémiques, mais je pense qu'on a notre stand comme prévu. Dans la bulle Nouveau Monde, numéro 39, si je ne me trompe pas, comme à peu près tous les ans.
Et donc vous y allez depuis combien de temps, vous, Angoulême ?
Plus de 40, c'est affreux.
Et vous connaissez tout ce qui est bande dessinée indépendante, là vous retrouvez énormément de gens que vous connaissez depuis longtemps.
Oui, alors bien sûr, ceux de ma génération, ça fait 30 ans qu'on se fréquente et qu'on se frotte, mais aussi les plus anciens et puis les plus jeunes. Mais il y a énormément maintenant de structures. J'arrive plus à suivre. Dans les années 90, vraiment tout le monde se connaissait. Chaque acteur de structure, auteur, autrice, il n'y en avait pas encore beaucoup des dessinatrices.
On n'a plus le temps, mais on n'a pas parlé de votre idée que ce qui a été nouveau dans la bande dessinée, c'est l'arrivée des filles.
C'est
con parce que c'est la fin de l'émission, j'aurais dû y penser avant.
Ces 20 dernières années, c'est ce que j'estime le plus important, c'est qu'enfin, c'est plus un moyen d'expression réservé aux jeunes garçons, ni à ce qu'on a appelé à un moment donné les adultes, parce que ce qu'on appelait les adultes, c'était des mecs qui cherchaient surtout à des bandes dessinées avec du porno, disons-le clairement. Donc on a là vraiment une parité qui est en train de s'imposer.
Comme Julie Doucet, c'est magnifique.
Oui, alors que Julie Doucet, elle est de ma génération, donc c'était une des rares à avoir fait de la bande dessinée dans un domaine de mecs, quoi. Alors qu'aujourd'hui, il y a énormément de dessinatrices, d'autrices super intéressantes.
Vous reviendrez un jour nous parler des dessinatrices.
Mais oui.
Je voudrais remercier Matine Djalali, excusez-moi pour l'accent, Lucas Penture et Séphraïm Fahmy qui sont de l'autre côté de la vitre. Merci à vous et à la semaine prochaine.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.